Donc, et nous allons parler de différents thèmes pour notre processus, pour la responsabilité du management. Nous allons essayer de produire une proposition pour des commentaires publics. Et le processus que nous avons aujourd'hui et qui est spécifié pour chacun des organisations GNSO ont des processus déjà très définis. Tout le monde est très clair à ce niveau. Il y a les périodes pour les commentaires publics et de même, nous avons également des processus pour les commentaires publics lorsque nous avons des accords pour .com, aucun changement pour .com. Nous avons très souvent au niveau légal quelques modifications qui sont effectuées pour les commentaires publics. 30 jours pour les commentaires publics. Tout cela a été spécifié et de même pour les budgets, pour le plan stratégique, tout cela est assez prévisible. Nous avons des commentaires publics qui sont effectués. Donc, on connaît bien ces processus de base. Mais ce que nous avons vu ces dernières années, c'est plusieurs processus ad hoc. Donc, pour la protection des droits pour les nouveaux GTLD, le conseil d'administration a demandé à un groupe d'experts de fournir un rapport. Et on a pensé que ce rapport allait être mis en œuvre, mais le conseil d'administration a choisi de demander auprès de la communauté et du GNSO plus de conseils. Et on a formé un groupe de travail, STI, et qu'est-ce qui allait se dérouler ensuite, une fois qu'on a reçu ce rapport d'un groupe d'experts. Si le groupe d'experts avait su que cela faisait partie du processus, eh bien, ils auraient travaillé d'une manière un petit peu différente. Et de même, nous avons vu l'équipe WHOIS qui avait des attentes. Et le conseil d'administration a dit, nous voulons avoir un impact direct de toutes les parties prenantes avant que nous puissions statuer. Donc, peut-être que cela aurait changé un petit peu l'approche, le soutien aux personnes ayant déposé des dossiers de demande. Donc, c'est un groupe de travail conjoint entre ALAC et le GNSO. Il y a eu beaucoup d'incertitudes à ce niveau. Qui allait s'occuper de ce groupe? Et ce rapport est passé par plusieurs canaux, par le GNSO, et ensuite est arrivé au conseil d'administration. Donc, c'est assez imprévisible, et le processus a été développé au dernier moment. Nous avons eu une approche un petit peu au fusil de chasse, dirais-je, pour essayer d'obtenir un critère qui montrait des progrès sur les clauses compétitives et la confiance des consommateurs, le choix des consommateurs. Donc on a demandé des conseils, on a demandé à chaque partie de l'ICANN, de toutes les organisations de soutien, et nous avons formé un groupe de travail, mais une nouvelle fois ce processus n'a pas été documenté. Donc, à la base des objectifs de cette séance pour le conseil d'administration, on a besoin de prévisibilité. Donc, lorsque nous posons des questions à la communauté, On veut savoir ce que la communauté va utiliser comme processus et nous devons savoir quels sont les rapports, quelles sont les options de commentaires publics. Un autre aspect, c'est que idéalement, cela soutient la formation d'un consensus dans le cadre des parties prenantes. On l'a vu avec l'ALAC GNSO, qui travaillent parfois ensemble. Il y a différents groupes qui collaborent et qui coopèrent. Je crois que c'est une bonne chose, qui est encouragée par le conseil d'administration. Je crois que toute la communauté devrait être en mesure de se faire. Donc, les questions qu'on avait posées dans nos débats, comment demander des conseils de la collectivité, des communautés, est-ce qu'on doit former un groupe de travail? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons ces groupes de travail qui œuvrent? Quel est le commentaire public, le processus de commentaire public? Donc, il s'agit là des questions que nous avons lancées et qui sont les questions principales auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et je vais vous présenter notre panel. Nous avons Ray Polzak, qui est membre du conseil d'administration. Ray Polzak, donc, il travaille aux améliorations structurelles. Chuck Gowns, qui était à la tête du GNSO de par le passé. Et nous avons également Alan Greenberg, qui est un exemple de quelqu'un qui a travaillé à plusieurs groupes, membre de l'ALAC. Il a également participé au conseil du GNSO. Donc, c'est en quelque sorte un pont entre le GNSO et d'autres entités. Donc, c'est quelqu'un de très qualifié. Enfin, nous avons du personnel de l'ICANN avec nous. Bart Buswinkle, quelqu'un qui a été très actif dans la communauté CCNSO, qui est un conseiller en politique et qui travaille en tant que consultant avec le conseil d'administration. Donc, je vais passer la parole aux membres du panel. Merci, Bruce. Je dirais que le SIC fait du travail dans ce domaine et nous avons pris la question de la liaison, du travail avec le conseil d'administration. Est-ce qu'il doit y avoir plus de liaison ou moins de liaison? Et nous avons dû voir un petit peu les mécanismes de conseil. Donc, nous avons exploré les lignes de conduite et le règlement intérieur, ce qui est toujours difficile puisque nous avons des directives qui sont un petit peu partout dans les textes statutaires. Nous avons déterminé que si on a un diagramme, en quelque sorte, ça, c'est pour le conseil d'administration qui a besoin de conseils, qui a deux options, qui peut aller au niveau interne ou qui peut aller au niveau externe. Et plus on a d'activités externes, de consultants, d'études économiques, ce que vous pouvez faire également, c'est former des consultations externes avec des panels d'experts. BGC fait beaucoup cela. Il y a également l'option qui existe. Nous avons TLG, ce qui est une organisation qui n'existe sans budget, qui n'a pas de réunion. Ils n'ont pas le droit d'avoir des réunions. Et ils sont là pour fournir des conseils au board. Et il y a une rotation entre eux. Lorsque nous avons commencé à voir comment, à quel point ils étaient efficaces, eh bien, nous nous sommes rendus compte que le groupe et les liaisons qu'on fait l'analyse ont dit que ça n'avait aucune raison pour exister. Mais d'une manière plus importante, le ICANN doit avoir des relations avec ces organisations, et lorsque nous établissons des relations, dans le cadre de ces relations, nous allons décider du degré de représentation, de réciprocité, de liaison. Donc, ça, c'est au niveau externe. Des relations formelles, c'est engager des consultants, former des panels d'experts. Maintenant, au niveau interne, c'est-à-dire le contraire, nous avons les ESSAC, les ERSAC et le GAC. Donc, nous avons toutes ces organisations qui fournissent des types de conseils. C'est en quelque sorte un comité consultatif. Et de temps en temps, le conseil d'administration, d'une manière délibérée, efficace, forme un groupe de travail, une autre commission, ça dépend comment on l'appelle, hein. Et parfois, le groupe de travail évolue, par exemple le groupe jazz. Il a beaucoup évolué de par le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que il doit y avoir des règles de base pour former des communautés, et cela représente des changements au règlement intérieur. Et vous verrez également la possibilité qui existe pour la formation d'autres commissions permanentes consultatives. Donc, j'espère que cela va se faire. Mais c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, pour parler du processus de consultation. Bruce nous a indiqué que ce processus existe avec un certain nombre de jours pour les commentaires, pour effectuer des commentaires. Parfois, on abuse du système parce que c'est un substitut pour le consensus. Donc, le cadre que nous avons pour les consultations est plus ou moins valide, mais il faudrait mieux le définir et avoir de meilleures règles. Par exemple, plutôt que d'avoir des commentaires publics, il faut poser des questions pour lesquelles on attend des réponses. Donc ça, c'est un exemple d'amélioration. Et je ne m'étendrai pas plus. Mais ce qui manque beaucoup, c'est la capacité pour la communauté de faire des suggestions au conseil d'administration. Et il n'y a pas de mécanisme pour cela. Les rares mécanismes qui existent, c'est que on peut se réunir pour un petit déjeuner, par exemple, et on a des conversations, des débats, on parle entre nous, nous avons des échanges, des cocktails. Et vraiment, c'est des suggestions. Où on rencontre quelqu'un dans un aéroport. Donc je crois qu'il faut que l'on passe du temps à cela. Mon expérience personnelle, comme vous le savez, j'étais PDG de Aon. Et il y a 5-6 ans, nous avons bâti un programme de suggestion qui a été mis en place. C'était assez actif. Et il y a toujours des choses un petit peu bizarres, du style, on a besoin de plus de salles de couleur rouge. Mais nous avons eu également, dans cette boîte à idées, cette boîte à suggestions, des choses très intéressantes. Il y a eu un processus de consultation, des commentaires de la communauté, et cela nous a permis d'améliorer la situation. On a pu définir de nouvelles lignes de conduite avec cela, avec un nouveau mécanisme. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour voir la période de commentaires publics telle que nous l'avons aujourd'hui et nous devons voir ce que nous pouvons faire pour que ça fonctionne bien. Et analysons également ce que l'on peut faire pour bâtir un programme de suggestions qui fonctionnera. Voilà. Merci Ray. Je vais donner la parole à merci. J'aimerais commencer par dire que je ne suis pas ici pour représenter le conseil du GNSO ou le GNSO ou tout court, mais plutôt pour partager quelques-unes de mes observations, étant donné que j'ai travaillé au GNSO pendant de nombreuses années depuis son départ en tant que DNSO. Tout le monde connaît bien les PDP. Et nous avons un processus très défini au GNSO pour gérer ces PDP. Mais comme Bruce l'a souligné et réconfirmé, eh bien, on a besoin de beaucoup plus de conseils et on doit mieux gérer ces conseils. Et selon moi, il y a certains avantages au PDP, parce qu'ils assurent que tout le monde est invité, c'est un mécanisme pour s'assurer que le modèle fonctionne bien, mais ce n'est pas toujours facile lorsque l'on veut des conseils et obtenir des conseils pour gérer les conseils. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Tout d'abord, c'est intéressant dans le travail qu'on a mené. Et dans ce que j'ai observé, il y avait eu beaucoup. Que fait le conseil du GNSO lorsque le board vient lui demander des conseils? Eh bien, son rôle, si on lit le règlement intérieur, c'est de gérer le développement des politiques, pas nécessairement de donner des conseils. Et d'un point de vue pratique, c'est parfois très difficile d'obtenir un consensus au niveau du conseil du GNSO sur un point précis, parce qu'il y a beaucoup de diversité, ce qui est une bonne chose, mais également ce n'est pas très pratique lorsque l'on veut obtenir un point de vue majoritaire de la part d'un conseil GNSO. Donc, ce que je suggérais personnellement, à moins que c'est trait au développement de lignes de conduite, ce n'est pas la meilleure chose de demander des conseils au GNSO. Nous avons des groupes de parties prenantes, nous avons différents groupes qui existent et qui s'expriment, et je suggérerais que c'est une meilleure approche dans de nombreux cas, plutôt que d'aller directement voir le conseil. Donc, une des choses sur lesquelles on a travaillé, Et une idée qui, selon moi, est valide et devrait être plus analysée, avec l'ALAC tout particulièrement, c'est l'idée d'un groupe de travail communauté. On ne l'a pas pour le moment, on n'a pas de bonne ligne de conduite pour fournir donc un engagement. Nous avons réussi à utiliser plusieurs principes PDP de la part des différents SOs. Et moi, je suggérerais fortement que nous poursuivions l'idée d'un groupe de travail pour obtenir des conseils et que nous travaillions ensemble en tant que SO, tout particulièrement au niveau de l'ALAC GNSO et autres commissions consultatives également, que nous commencions à définir des lignes de conduite . Cela pourrait s'appliquer d'une manière plus simple par rapport aux demandes de conseil. Merci beaucoup, Chuck. Nous allons donner la parole à Alan Greenberg. Oui, deux points que j'aimerais soulever. Chuck a dit qu'un des problèmes qui existe, c'est que nous avons le processus PDP. Ni le GNSO ni la LAC ont véritablement des lignes de conduite définitives pour prendre des décisions. Le GNSO, par exemple, à l'occasion, va créer simplement un groupe de rédaction ou inventer de nouveaux termes, avoir des recommandations, approuver cela et communiquer cela au conseil d'administration. Donc, nous avons un problème au niveau du groupe, au niveau de ces véhicules, et il me semble qu'il faudrait que ça soit plus clair. Donc, ça fait vraiment partie du problème. Je crois qu'il y a un problème encore plus vaste qui existe, et que la mauvaise question a été posée. Comment devrions-nous, en tant que communauté, différents groupes, fournir des conseils au board? Comment le conseil d'administration devrait être mieux informé des besoins de la collectivité, des problèmes qui se posent? Et ça, c'est très différent. Vous le voyez bien. Je crois que vous étiez aux séances FATI. Vous avez écouté Fadi ce matin, notre PDG. Et maintenant, le board peut maintenant parler au personnel. Donc, le mécanisme va être très différent. Il peut y avoir une communication avec le board. Donc, il peut y avoir une meilleure communication. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière d'obtenir un input, mais on travaille toujours dans un mode où on nous demande des conseils, on nous demande d'écrire des documents et on demande à quel point ce problème est complexe. Il faut que ça soit pas plus de 3 pages pour que le board puisse l'écouter et le lire et en prendre connaissance. On n'a pas beaucoup de feedback, on n'a pas de dialogue, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de débat et je ne crois pas que le board va obtenir beaucoup de la communauté de cette manière. Il me semble donc que les sous-groupes vont devoir avoir des interactions fortes et significatives. On ne parle pas à quelqu'un, on parle avec quelqu'un. On dialogue. Je ne crois pas qu'on va régler le problème avant qu'on ait un mécanisme un petit peu meilleur. Merci, Pat. Oui, quelques commentaires. il y a véritablement un manque de connaissance des règles, de certaines règles, je dirais, et il n'y a pas toujours un bon processus de développement de lignes de conduite, me semble-t-il. Je crois que on a eu un processus parfois un petit peu meilleur. Ça a été fait en dehors de l'envergure du PDP parce que on n'y arrivait pas dans le temps imparti. Et il y a déjà un mécanisme en place auquel Chuck a fait référence qui est utilisé pour le fast-track, pour que ça aille plus vite, une voie rapide. Donc un groupe de travail cross-communautaire. Et donc, la communauté a travaillé à l'époque, il est possible de faire cela, et il y a des exemples qui existent. Le deuxième exemple, c'est les régions géographiques également, ça c'est un groupe de travail qui a été initié à la demande d'un SO. Donc, historiquement, il y a des exemples où ça marche. Et si je reviens à ce qu'a dit Alan, il y a un dialogue intense entre le conseil d'administration et les SOs et les ASIS dans le cadre du Fast Track. Donc, nous avons eu ces quelques exemples. Le deuxième exemple des régions géographiques était à l'initiative d'un des SOs, CCSO. Donc, de par le passé, nous avons vu des exemples relativement bons, relativement convaincants, en dehors du PDP. Donc, à l'initiative d'organisations de soutien, SO et AC, et moi, venant du CCNSO, je crois que le conseil d'administration, lorsqu'il demande de la communauté, de la part de la communauté, des demandes, eh bien, le CCNSO a quelques procédures en place pour du démarrage. Certains de processus de consultation prennent plusieurs semaines, au minimum, 6 ou 7 semaines. Donc, si le board a vraiment besoin de conseils, c'est pratiquement impossible à faire. C'est un problème logistique qui se pose. Et nous avons besoin de bénévoles également pour travailler à tout cela. Et plus il y a de demandes qui arrivent, nous avons fait une analyse un petit peu rapide du nombre de demandes qui arrivent, pas seulement du board, mais des autres SO et SIS. Et il n'y a plus de volonté de bénévoles, il n'y a plus assez de bénévoles. Nous avons un problème à ce niveau-là. Eh bien, nous voulons identifier comment nous allons pouvoir obtenir des conseils. On a parlé des consultants, on a parlé de beaucoup de choses cet après-midi. Comment avoir un nouveau conseil consultatif, différents mécanismes, quelques lignes de conduite à mettre en place, et ainsi de suite. Donc, vous nous avez dit que ce n'était pas très clair, qu'il fallait préciser les choses. J'essaie de résumer un petit peu ce que vous avez dit. Donc, Chuck a parlé des différences entre le conseil GNSO et d'autres. Donc, nous avons différentes parties constituantes. Donc, à l'époque, il y a une époque, on travaillait directement et différemment. On avait des rapports qui existaient. Et on travaillait avec différents collèges. Et chaque groupe de travail a intégré ses propres lignes de conduite et ses propres directives. Donc, on a perdu un petit peu de temps avec cela. C'était très redondant et c'était très frustrant. Et lorsqu'on ne sait pas comment la communication s'effectue, il n'y a pas véritablement de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue à une époque avec le directoire, c'est très clair. il y avait des résolutions du board, mais ce n'était pas quelque chose qui provenait d'un dialogue. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tant de frustration. D'un autre côté, lorsque le board a une demande, pose une demande, eh bien, si cela arrive à 3 heures du matin et le comité ne comprend pas bien ce qui est demandé et il y a une conversation entre la communauté et le board, une interprétation de ces demandes. Je l'ai déjà vu, quelque chose qui avait été écrit, libellé trop rapidement. Ça a pris 10 heures de travail et par la suite pour clarifier les choses. Donc ça, il faut vraiment l'améliorer. La clarté des demandes et la qualité des dialogues. Je crois que de par le passé, le board a parlé de durée de 30 jours, de date limite de 30 jours. Ensuite, des temps de réponse de 3 à 6 mois. Donc une demande, ça prend entre 6 et 7 semaines. Je crois que c'est la même chose pour les GNSO. Ça prend du temps pour avoir des réponses. Donc, c'est ce qu'utilise le conseil, utilise des consultants externes, parce qu'il y a le problème de la paix également. On n'utilise pas les connaissances de la communauté assez. Donc, je crois qu'on a besoin de beaucoup de conseils provenant des experts. Et, moi, par exemple, nous allons utiliser un consultant très bientôt. Voilà ce qui a été dit jusqu'à présent et nous sommes prêts maintenant à ce que vous posiez des questions. Donc, si vous voulez intervenir, allez au micro. Allô? Marika Koenigs, commentaire au nom de Marie Wang, qui est participante et qui a travaillé à des groupes de travail. Donc, c'est au sujet de son expérience avec le conseil. Donc, son commentaire est le suivant. Les problèmes dans ces groupes de travail, c'était les règles et les processus pour les différents SO. Et il y avait beaucoup d'incertitudes. Est-ce que l'on pouvait s'exprimer en notre nom? Un facteur, c'était un dialogue direct entre les membres du conseil d'administration et les membres du groupe. Et ça ne se passait pas bien, il n'y avait pas un bon dialogue, il n'était pas satisfaisant. Il y a également le travail du GAC qui a été pris en compte, qui est intervenu. Donc, si j'ai bien compris cette question, c'est le travail que fait le GAC et qui fait des communiqués pour, évidemment, s'exprimer. Oui, moi, je suis membre du... pour les améliorations du GAC et pour sa communication avec le directoire. Ça, c'est un thème qui a été débattu hier dans une réunion du groupe de travail. Et... je crois que le groupe de travail va répondre à cela très rapidement. Il y a eu des propositions concrètes qui ont été mises sur la table hier. Le personnel a proposé et présenté des éléments supplémentaires. Et il y a eu également plus de débats. Donc, ça ne peut pas être des conseils provenant du GAC, mais nous avons des observations, nous avons tous les termes qui peuvent être utilisés. Donc, nous avons le problème d'obtenir les informations, le retour d'informations est également un problème. il me semble que le directoire doit absolument être engagé. Donc ce groupe de travail avance et il s'est réuni hier. Je crois qu'il y a eu des avancées. Il y a eu des propositions concrètes qui vont être effectuées d'ici Beijing, Pékin. Merci beaucoup. Oui, la question de Marie était assez large. Les personnes qui parlent au nom des AC et SOs, les interactions avec les membres du GAC. Donc, c'est une question interne qui se pose. Comment s'exprime-t-il? Par quel mécanisme s'exprime-t-il? C'est difficile entre le board et le GAC. Là, je dois dire qu'il y a un problème de communication. Moi, j'ai été voir quelques groupes, travailler. J'ai vu des membres du GAC ne pas participer, mais poser des questions intéressantes. Donc, peut-être proposer de nouvelles approches. Et donc, il y a des mécanismes qui existent. Même je crois que le choix des clients, c'était intéressant. Nous avons eu des dates limites qui ont été données. Et enfin, lorsqu'il y a eu un débat, entre un débat très informel, le GSO a pu poser des questions et ils essayaient de mieux comprendre le problème qui se posait. Donc, nous devons absolument limiter ces impasses. Oui, les inquiétudes que nous avons, on en a parlé hier. Dans ce groupe de travail Board GAC. Donc, ce que vous venez de dire, ces mots ont été prononcés hier. Ah bon? Oui. Je crois qu'on avait mal compris la question du board hier. Donc, pour répondre à la question de Marie, une nouvelle fois, l'expérience qui existe avec le GAC est un petit peu différente. Et je crois que ce qui était très efficace, ça a été fast track, la voie rapide. Mais avant que les recommandations ne soient envoyées au board, c'était un mandat du groupe de travail. On avait le GAC et le CCNSO qui devaient travailler au niveau du communiqué. Et le board était informé donc de ces problèmes, de ces technologies. Et il y avait un groupe de travail de participation avec le GAC. Et ce n'était pas très clair. La participation n'était pas très claire. Mais en fin de compte, le board ne fait que recevoir des recommandations à la suite du CCNSO et des recommandations. Donc, à ce niveau, le board est assuré qu'il y a une bonne liaison entre la communauté et le directoire. Donc, c'est un point important à souligner, les recommandations ne sont pas directement envoyées du groupe de travail, ça doit passer par le conseil dans le cadre du GNSO. Oui, merci beaucoup. Donc, j'aimerais avoir un commentaire sur ce qu'a dit Marie, sur la question qu'a posée Marie. Le directoire travaille avec des commissions. Nous sommes un conseil d'administration nombreux avec de nombreuses personnes, donc on doit avoir des sous-commissions pour travailler efficacement. Je crois que ce que nous devons être conscients du fait qu'on ne, le board n'est pas seulement là pour faire des lignes de conduite. Ce n'est pas un instrument de définition de lignes de conduite. Et il y a des membres du personnel qui soutiennent beaucoup l'établissement de lignes de conduite et de politique, qui documentent donc les débats qui sont au sein de l'ICANN. Mais il y a des personnes qui sont là pour la mise en place, la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration dans les communautés. Donc c'est intéressant et important de travailler avec ces membres du personnel. Donc c'est parfois très difficile à mettre en œuvre. Donc que ce soit au niveau juridique, au niveau des départements juridiques, au niveau de la gestion des nouveaux GTLD. Donc c'est pas seulement le board qui doit travailler, c'est également le personnel qui est déjà assez débordé, mais qui doit gérer en plus ses requêtes. Oui, merci Bruce. J'aimerais répondre à quelque chose qu'a dit Bart. Les conseils d'un groupe qui ne font pas partie des SO doivent repartir vers les SO, c'est tout à fait vrai. C'est une question de ligne de conduite, mais la question que je pose, ce n'est pas la réponse que je veux donner, mais ce n'est pas une question de directive de ligne de conduite, mais c'est une collecte des retours d'informations provenant de la communauté. On suppose là qu'il n'y a pas de représentation de la position des SO. Oui, mais donc là, il faut que ça soit très clair. C'est un groupe limité. Un très bon exemple de cela, de la part de la communauté ECC, c'est les opérations et planifications stratégiques, le groupe de travail des opérations stratégiques. Donc, son mandat est de bâtir la confiance avec la communauté et de soumettre par soi des réponses et des commentaires. Donc, c'est toujours indiqué très clairement, c'est l'opinion d'un groupe de travail, ça ne représente pas le conseil ou l'effectif. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est possible, mais une nouvelle fois, il me semble qu'il est important de dire que cela facilite la vie un petit peu au niveau du CCNSO qu'au niveau du GNSO. Très bien. D'autres questions ou commentaires que vous devriez faire? Questions ou commentaires dans la salle? Alan, vous avez quelque chose à dire? Oui. Il y a beaucoup de peur dans notre communauté. Si quelqu'un dit quelque chose, même s'il parle au nom de quelqu'un, on est souvent mal compris. Les gens ont peur parfois de s'exprimer. Les gens ont peur de s'exprimer en tant qu'individu. Les membres du GAC ont peur de s'exprimer parce qu'ils ont peur que s'ils s'expriment seuls en tant que personne, ils vont représenter le point de vue du GAC. Donc il y a beaucoup de peur à ce niveau à l'ICANN, lorsque l'on fait partie d'un groupe, de s'exprimer individuellement sans avoir l'impression de parler au nom du groupe. Il faut dépasser cela, sinon on perd beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on traîne un petit peu pour nos recommandations. Je crois que ça pourrait prendre 2 mois au GNSO pour ratifier une décision. C'est pratiquement la même chose pour la LAC. Et il ne faut pas, donc, parfois, en effet, il faut être prudent, mais il ne faut pas garder pour soi les informations. On ne peut pas être handicapé par cette peur de s'exprimer en son nom. On peut s'exprimer en son nom sans s'exprimer au nom d'un groupe. Très bien, merci. D'autres commentaires de l'auditoire, questions ou commentaires? Donc, je vois s'il y a d'autres questions auxquelles je voudrais répondre et poser. Oui. Donc, quand est-ce que une question devrait passer par le processus de conseil? Et quand est-ce qu'on doit avoir un PDP, un processus de développement de politique? Donc une réponse simple, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose qui vont demander un choix, eh bien, vous avez la formulation de critères, et lorsque vous formulez des critères, eh bien là, ça devient un processus public. Ça devient un processus de développement de politique, parce que tout le monde doit être d'accord sur des critères, parce que lorsque l'on applique ce type de choses, eh bien, on sait qu'on va être évalué à l'aune des politiques qui sont qualifiées et qui sont adéquates, qui sont valides. Donc, si l'on prend en compte cette perspective, eh bien, cela devient une politique. Ce critère devient une politique. Vous allez avoir le point A qui va devenir un critère, et donc vous allez communiquer le point A. Est-ce qu'il y a un consensus? Mais comment qualifier ce point A pour qu'il devienne une politique? Donc c'est comme cela qu'un critère devient une politique. Donc c'est un petit peu comme cela que l'on peut évaluer les choses. Donc par rapport à cela, nous allons avoir des lignes de conduite et des critères qui ont été développés. Mais maintenant, nous allons avoir une méthode proposée d'effectuer les choses, et plus d'un choix, plus d'une méthode, plusieurs méthodes entre lesquelles on peut choisir. Donc là, vous allez avoir donc un processus de consultation, de conseil. Tout le monde est d'accord pour dire que nous avons ces critères. Comment allons-nous procéder? Voilà les questions qui se posent. Comment formuler un process, une procédure? C'est pour cela qu'on a besoin de conseils au niveau des procédures, pour que tout le monde comprenne bien le processus, pour que tout fonctionne mieux. C'est comme cela que je fais la différence entre les conseils et les lignes de conduite. Oui, je vais vous donner un exemple récent, ce sera peut-être plus clair. Donc, par rapport au GNSO, son rapport avec le conseil d'administration, le directoire. Il y a des recommandations sur le « who is ». Est-ce qu'on avait besoin d'un PDP ou pas? Donc, voilà comment le groupe des bureaux d'enregistrement a travaillé. Et il y a quelque chose qui va être envoyé peut-être même aujourd'hui. Donc, on a nos contrats. Parce que dans nos accords avec les bureaux d'enregistrement, il y a une longue clause sur le développement de politique et il y a donc cette barrière qui existe. Il y a des critères qui régissent le consensus et qui indiquent ce qu'est un consensus. Donc, le règlement intérieur nous dit et nous indique qu'il doit il y avoir un développement substantiel des politiques et un changement substantiel des politiques. Il y a une séance GNSO pendant ce week-end. Il y a 16 recommandations de l'analyse du Who Is. Il y a 16 recommandations qui arrivent de cette équipe pour revoir le Who Is. Il y a un autre groupe qui pensait que il n'y a pas besoin de PDP, de processus de développement de politique. Ça irait plus vite, ça serait plus simple. Je suis bien d'accord. Mais il y a des problèmes avec ces deux extrêmes. Et si vous demandez un PDP, si vous avez besoin d'un PDP, pour tout problème, ça ne va plus avancer. On va être bloqué. On va bloquer le processus. D'un autre côté, si on n'a pas un bon processus, eh bien, le modèle multipartite n'existe plus. Donc, il faut trouver un équilibre, un juste milieu entre les deux. Et je crois qu'on en a parlé hier soir. J'ai été dans tant de réunions, mais vraiment, on gère un budget, des informations budgétaires pour la CAN, plan stratégique et ainsi de suite, sans tout le temps avoir besoin de passer par l'intermédiaire de PDP. Donc, il faut éviter les extrêmes et trouver des méthodes d'avoir des retours d'informations. Est-ce que c'est un changement substantiel ou pas? Est-ce que c'est une politique importante? Le GNSO ne peut pas tout gérer. Donc, un PDP, c'est long, c'est pas facilement gérable, ça prend du temps. Donc, il y a des lignes de conduite, il y a des accords, des contrats avec les bureaux d'enregistrement. Lorsque ces lignes de conduite rentrent en ligne de compte, c'est plus facile. Il faut que ça soit substantiel et il faut qu'il y ait des ressources nécessaires. Oui, quelque chose que Chuck a dit. Ce n'est pas un développement de politique, c'est est-ce que c'est un besoin d'un PDP. Et comme Chuck l'a dit, pour ce qui n'est pas substantiel ou si important, s'il n'y a pas de problème de consensus, il y a d'autres mécanismes qui existent dans le GNSO pour faire des recommandations et qui ne demandent pas un PDP. Ça dépend de comment on pose la question. Donc, on n'est pas en désaccord, mais certains ne pensent pas de la meilleure manière. Ça dépend si le consensus est si important que cela ou pas. Oui, vous le savez, nous avons des PDP qui sont très limités pour notre communauté CC, code, nom de code de pays, country code, parce que nous travaillons beaucoup dans le cadre du règlement intérieur de l'ICANN. Et si vraiment vous voyez ce qui a fonctionné, il me semble qu'il doit y avoir une consultation accrue, mais un des éléments essentiels de ce processus, c'est que vous devez définir un process sur lequel tout le monde tombe d'accord. Il faut que ça soit acceptable pour la communauté. Il faut ainsi obtenir des résultats. Donc, on a appris cela au fur et à mesure des années. La première étape, ce n'est pas de foncer, mais c'est d'obtenir l'accord de toutes les parties prenantes. C'est pour cela que le système Fast Track, voie rapide, réussissait si bien. Tout le monde savait très bien quels seraient les résultats obtenus sans passer par quelque chose de très formel. Le PDP, le processus de développement de politique, c'est très formel. Oui, moi, mon seuil, c'est le degré avec lequel cela impacte les entités. Les négociations entre, par exemple, la communauté personnes demandant un registre et les bureaux d'enregistrement, ce type de contrat, est-ce qu'il y a un besoin de facture, de choses comme cela. Ça, c'est des négociations entre parties. Mais lorsque vous imposez des conditions sur les registrants, eh bien là, les registrants doivent avoir voix au chapitre. Je crois que on a été peut-être un petit peu trop vite par le passé. Donc, vous avez utilisé cet exemple de la voie rapide, mais finalement, cette voie n'était pas si rapide que cela, et ça prenait pas mal de temps, et ce n'était pas toujours, selon moi, si satisfaisant que cela. C'était à peu près le même cycle, parfois on tournait un petit peu en rond également. Des exemples concrets de cela. Bruce, vous venez de dire, on a pris une mesure au conseil d'administration pour prendre une décision et contourner le PDP. Et je comprends tout à fait pourquoi ça a été fait. Je ne suis pas là pour remettre cela en cause. Mais j'y pensais récemment. Si on avait lancé un PDP à ce moment-là, on aurait terminé plus tôt. Ça aurait été plus vite. Oui, vous avez raison, oui. Donc, ICANN et VeriSign ont été critiqués fortement pour la renégociation du .com. Et je ne vais pas parler pour ICANN, mais pour VeriSign. C'est exactement ce que vous avez dit. Nous avons vu l'impact d'une variété de parties tierces parties, et ce n'était peut-être pas un accord bilatéral. Cette décision n'a pas pris en compte l'avis des parties tierces. C'est pour ça qu'on préfère le PDP. Parce que dans un PDP, tout le monde est partie prenante, tout le monde a voix au chapitre, et ça a un impact sur tout le monde. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires de la part de l'auditoire? Oui, s'il vous plaît. Moi, je suis assez nouveau à l'ICANN. Et moi, j'ai travaillé au forum WAP sur les technologies. Je ne sais pas s'il y a des gens du WAP. Oui. Quel est votre nom, monsieur? Mary McCutcher, du Canada. Oui, Murray McCutcher. Je vous ai écouté attentivement. En ce qui concerne les personnes qui donnent leur opinion personnelle, et est-ce que vous pourriez commenter un petit peu plus à ce sujet? Ça m'a interpellé. J'ai l'impression que l'ICANN, c'est un petit peu les Nations Unies. C'est un comité olympique international, un petit peu. C'est très intéressant, l'ICANN. Il y a un petit peu tout le monde, du privé, du public. Donc, je crois que le processus n'est pas facile à gérer. Je le comprends bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est la perspective d'Alan sur le peu de voix au chapitre des individus. Donc, est-ce que l'on pose les bonnes questions? Donc, en substance, moi, je suis au conseil GNSO en tant que liaison de l'ALAC. Et je suis obligé de passer les positions de l'ALAC, les at-large, si je les connais, si je les comprends, si je les ai en avance. Ceci dit, soit je peux être silencieux, et si je passe simplement des positions officielles autorisées, je pourrais travailler par email, je pourrais envoyer des courriels, mais je peux faire un commentaire plus personnalisé de ce que je pense veut dire l'ALAC. En tant que liaison, je peux m'exprimer en leur nom. Il y a une pléthore de problèmes qui se posent. Donc, je crois que la plupart des personnes au GNSO comprennent que lorsque je dis c'est une position de l'ALAC, c'est une position de l'ALAC, et j'essaie de clarifier ces positions. Il y avait un mandat, il y avait avant un liaison du GAC, mais maintenant il n'y en a plus parce que la personne qui représentait le GAC ne pouvait pas s'exprimer en son nom personnel, avait du mal à s'exprimer en son nom personnel, parce qu'à chaque fois que cette liaison du GAC ouvrait la bouche, eh bien, on avait l'impression que même si elle s'exprimait en son nom personnel, c'était le GAC qui parlait. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas être perçues comme parlant pour un groupe, au nom d'un groupe, à cause de leur appartenance à un groupe, et qui choisissent plutôt le silence que d'être perçues comme s'exprimant pour un groupe tout entier. Les gens sont très prudents, en quelque sorte. Moi, je crois pas qu'il y ait une paralysie si forte que cela. Parce que je sais que les liaisons auprès du board, eh bien, ils donnent leur avis. Et il y a une bonne représentation auprès du board. Et cette liaison, et j'en ai vu plusieurs... Nous savons quand cette personne s'exprime en son nom et quand cette personne s'exprime au nom du GAC, par exemple. Donc le problème que vous avez avec les membres du GAC, c'est qu'il y a un aspect très sensible. Et ça va même assez loin. Ils ont du mal à s'exprimer au nom de leur propre gouvernement. Ils ne veulent pas s'exprimer parce qu'ils ont l'impression que en effet, ils risquent de perdre leur emploi s'ils s'expriment trop en leur nom personnel, et il faut respecter cela. Donc, dans les registres, il y a des gens qui viennent s'exprimer fortement, et il est très clair qu'ils ne parlent pas au nom de leur gouvernement, mais en leur nom personnel. Ils utilisent les connaissances qu'ils ont, des points de vue de leur gouvernement, mais ils ne sont peut-être pas d'accord avec les positions de leur gouvernement. Donc, il y a un hiatus, si vous voulez, entre leur position et la position du groupe qu'ils représentent ou du gouvernement qu'ils représentent. Mais je ne crois pas que le problème soit si grave que cela, Alan. Il faut qu'il y ait une meilleure information. Et vous allez entendre des membres du conseil d'administration, Steve le fait tout le temps, et... Il dit ça, ce n'est pas une position du conseil d'administration. Je m'exprime en mon nom personnel. Il s'agit là de ma propre opinion. Ça pose problème à certaines personnes, mais il me semble que ce n'est pas un problème très répandu à la CAN. Moi, je suis membre du board, mais croyez-moi, je m'exprimais. Ce n'est pas une position du conseil d'administration et je n'ai pas peur de m'exprimer en mon nom personnel. Je crois qu'il faut arriver à un niveau de confort supérieur. Donc, je crois que les personnes doivent pouvoir s'exprimer en leur nom. Mais vous avez raison. Il y a eu cette notion qui a existé à l'ITF, par exemple, avec les représentants des entreprises. Moi, j'ai entendu Chuck dire, ah, ben maintenant, je vais mettre ma casquette VeriSign. Ça existe, ce problème, mais ce n'est pas si grave que cela. Oui, je ne dirais pas que c'était une caractéristique. Moi, je disais que c'est très caractéristique de certains. Ça ne me surprend pas de dire que ce n'est pas un problème au board, au conseil d'administration, mais moi je suis à l'ALAC, et croyez-moi, je vois le problème, j'assiste à ce problème, je le note. Donc, il peut y avoir des confusions, il peut y avoir des aspects personnels qui rentrent en ligne de compte, et cela a un impact sur notre capacité à créer le consensus et des lignes de conduite et des politiques utile. Ce fut un problème de par le passé, sans aucun doute. Si cette personne nous écoute, n'hésitez pas à vous exprimer. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer en son nom personnel. C'est très important. Que ce soit dans un grand groupe, que ce soit dans un petit groupe, il y a une responsabilité dans la communication des deux côtés. Oui, on a répondu à votre question. Donc, je crois que c'est clair. C'est très culturel aussi. Ça dépend de la confiance du groupe, des commissions, du travail des commissions. Est-ce que les gens ont envie de s'exprimer, ainsi de suite. Donc, on a besoin de plus de bénévoles, en tout cas pour nos commissions. Il faut que tous les points de vue soient représentés. Il y a des groupes qui élisent leur propre porte-parole, donc c'est un petit peu différent. Les personnes au conseil du SGNSO, les gens ont plus ou moins de latitude, hein, aussi s'ils sont élus, pas élus. Donc si on demande à un membre du conseil d'administration des questions sur ce que l'on faisait par rapport à l'analyse du règlement intérieur, eh bien, ça dépend du travail de la commission. Moi, je dis, lorsque je m'exprime en nom personnel et lorsque je m'exprime au nom du conseil d'administration. Donc, je crois que c'est toujours très clair au niveau du board. Donc, lorsque je suis président d'une commission, c'est un petit peu différent. Steve Crocker est la seule personne qui a le droit de parler au nom du board de toute façon. Donc, madame, oui. Nous avons un document qui va être publié, des commentaires publics à ce sujet, jusqu'au 25 octobre. Et il va y avoir une période pour faire des réponses. Donc, nous avons un commentaire public qui parle, qui a trait à ce point. Donc, eh bien, nous allons conclure notre séance et vous remercier de votre attention. Merci beaucoup.
Thank you. The next program in this room will be the presentation of the initial plan of the African.
Nous allons ensuite passer à la présentation du plan initial.